d'emploi. Mode d'emploi.
Bonjour, bienvenue sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 pour l'émission Mode d'emploi, animée aujourd'hui par une équipe de militants intermondialistes d'attaque et du journal Le Piaf.
Et on reçoit aujourd'hui Jean-Claude de la coordination Eau d'Île-de-France. Mais pour commencer la première chronique, on va écouter Alex. Et Alex, bien entendu, en ce jour, ne va pas nous parler de politique.
Ouais, en fait, on m'avait posé une question, hein, Gaël, là en face, m'avait demandé, mais comment voter au premier tour quand on connaît, comme moi, parce que moi je connais, le résultat d'un deuxième tour à Solino Cheminade. Donc effectivement, Gaël, c'est la bonne question, mais comme l'a très bien expliqué Pierre, je vais pas y répondre, hein. On est effectivement obligé, on est rentré dans la campagne, on est obligé à la neutralité, on a l'obligation de parler de tous les candidats, ou alors d'en parler d'aucun. Donc du coup, je vais me contenter de parler des sondages. Mais pour respecter quand même cette obligation de neutralité, hein, comme j'ai cité deux noms de candidats, il va falloir que je cite les neuf autres, hein, pour en être débarrassé une fois pour toutes. Donc la question des sondages intéresse, voire obsède, Fillon, Macron et Mélenchon, mais aussi Le Pen, Hamon, Poutou, encore Artaud, sans oublier Lassalle et évidemment Dupont-Aignan. Voilà, maintenant c'est fait. Donc passons à la vraie question. Pourquoi tous ces sondages? Pourquoi ça nous intéresse tellement? Moi, personnellement, j'ai toujours aimé le sport à la télé et je m'en bouffe un maximum en ce moment, du sport et des sondages. Et il faut bien dire qu'il y a une espèce de moment rituel le matin où je consulte le sondage du jour, petit frisson qui parcourt les chines, le petit cheval sur lequel j'ai parié, est-ce qu'il va rattraper le grand méchant canasson qui est en tête alors qu'il reste plus que 700 mètres avant la ligne d'arrivée. Bref, je reviens à ma question, pourquoi tant de sondages? Alors que ces dernières élections, les sondeurs se sont un peu plantés, voire dans certains cas carrément plantés. Eh bien, Roland Quayrol, sondeur averti et éminent politologue, et nos rares auditeurs qui, en plus d'écouter Mode d'emploi, ont le privilège de regarder C'est dans l'air, connaissent sa figure débonnaire et son verbe acéré. Donc, Roland, disais-je, à la réponse, les sondages sont utiles à la démocratie. Eh bien, au risque de déplaire aux rares auditeurs qui écoutent les deux émissions et qui pensent en général plutôt du mal de l'industrie sondagière, Monsieur Quayrol n'a pas complètement tort. Historiquement, ça se défend. Ça a représenté un progrès. Donc il y a une petite histoire qui est vraie et qui est assez connue d'ailleurs, qui permet très bien d'illustrer cette idée. En 1936, Roosevelt se présentait pour la première fois à sa réélection, donc pour la deuxième fois, aux grandes dames des médias américains de l'époque. Il faut dire qu'avec son New Deal, Roosevelt passait à l'époque pour une sorte de Chavez qui allait une fois élu mettre en place une dictature soviétique dans les États-Unis. Donc ces grands journaux américains de l'époque, tout à l'angoisse d'un nouveau mandat du Perron de la Nouvelle-Angleterre, ont interrogé leurs lecteurs pour savoir qui allait gagner les élections. Et la majorité des 2 millions de lecteurs qui ont répondu à l'enquête ont confirmé aux éditocrates de l'époque que Roosevelt ne serait pas réélu. Et il y a un jeune sociologue du nom de George Gallup, qui est devenu après très célèbre, qui avait fondé quelques années avant son institut de sondage, à l'époque où ça existait quasiment pas, c'était un des tout premiers au monde, qui s'est aussi attelé à la question et qui a essayé de trouver une autre réponse. Alors au lieu d'interroger 2 millions de personnes, c'était un petit peu compliqué, il s'est contenté d'en interroger 50 000 en utilisant la désormais très célèbre méthode des quotas. Autrement dit, il a veillé à ce que son échantillon soit représentatif de la population américaine, que dans son échantillon, il y ait la même proportion de jeunes et de vieux, d'ouvriers et de patrons, de citadins et de ruraux, d'hommes et de femmes, etc., que dans la population américaine. Et ce premier sondage moderne a prédit une victoire large de Roosevelt, ce qui s'est effectivement dépassé. Coup d'essai et coup de maître qui a fait la fortune de Gallup. En effet, il faut savoir, hein, et c'est toujours vrai d'ailleurs pour les instituts de sondage actuels, que l'institut Gallup vivait essentiellement des sondages à but commercial. Donc cette victoire sur l'establishment a démontré à toutes les entreprises américaines qu'on pouvait enfin connaître scientifiquement sa clientèle. Mais aussi, et c'est là que je souscris à l'opinion du vénérable Quayrol, cela constitue effectivement un progrès pour la démocratie. En effet, avant Gallup, s'interroger sur l'opinion publique, ça consistait à sonder les personnes influentes, les faiseurs d'opinion, pour avoir leur avis sur l'air du temps. En France, par exemple, on demandait aux préfets de rédiger régulièrement des rapports sur l'esprit public. Du coup, ces préfets allaient voir les notables locaux, les maires, les chefs d'entreprise, enfin à l'époque on les appelait pas comme ça, et taper le bout de gras avec eux pour connaître un petit peu les attentes du bon peuple. Ensuite, après, avec toutes les informations collectées, ils mettaient tout ça en forme avec de très jolies formules. Moi, j'ai vu quelques rapports là-dessus, c'est magnifique. Des tournures aujourd'hui un peu désuètes, se charger de rassurer le ministre sur l'état de l'opinion publique. Autrement dit, en dehors du moment électoral, qui pouvait être un peu désagréable, l'opinion publique se résumait à un dialogue entre les élites parisiennes et provinciales. La méthode des sondages par quota, donc la méthode Gallup, a renversé la table. Parce que finalement, pour un coup, somme toute assez modique, on pouvait de manière relativement fiable se faire une idée des opinions populaires sans passer pour un populiste. Néanmoins, on le sait bien aujourd'hui, cette belle mécanique semble un peu à bout de souffle. Trump est président des États-Unis et pas Hillary Clinton. Le Brexit a eu lieu. Alors, d'où vient le problème? Si on sonde les sondeurs sur les ratés de la machine, ils ont une réponse toute prête. L'opinion est volatile. Vous noterez l'ironie involontaire de cette réponse. En effet, la méthode Gallup, toujours utilisée actuellement, se fonde sur un présupposé sociologique selon lequel l'opinion, loin d'être volatile, est déterminée par la position sociale, l'âge, le genre et l'environnement de l'individu. Ce que dans le jargon on appelle les variables lourdes. Et ce que des décennies de sociologie électorale nous disent, c'est qu'il est improbable qu'une jeune femme de milieu populaire au chômage vote à droite. Et ce que nous disent les sondeurs aujourd'hui, c'est qu'il est tout à fait possible que cette jeune femme change d'avis au dernier moment pour voter, par exemple, pour l'extrême droite. Du coup, le sondage qui, 3 jours avant l'élection, pronostique une victoire du centre ne sera pas invalidé par une victoire de l'extrême gauche. L'opinion est volatile et un mouvement d'opinion s'est dessiné au cours des dernières heures qui est passé sous les radars. J'aime bien cette expression, d'ailleurs, elle n'est pas de moi. Sous les radars des sondages. Et plus sérieusement, si les sondages rencontrent quelques difficultés, c'est pour maîtriser ce qu'on appelle les biais. Autrement dit, toutes les raisons qui font que les opinions recueillies ne sont pas représentatives. Premier biais, les non-réponses. Les sondages se multipliant et leurs usages par les médias en devenant de plus en plus sensationnalistes, une méfiance s'est installée. Une proportion importante des sondés refuse de répondre. Les instituts de sondage refusent de répondre sur les taux de non-réponses, mais bon, ça c'est une autre question. Autre biais, la manière de recueillir les opinions. Pendant longtemps, les enquêtes se faisaient par téléphone. Mais précisément, c'est cette méthode qui entraîne le taux de non-réponse le plus élevé. Alors maintenant, on utilise une autre technique. On passe par Internet en proposant aux sondés des cadeaux en échange de leurs réponses. On constitue des panels sur Internet. Grand avantage, c'est pas cher. Problème, il y a quelques sondés qui sont devenus des professionnels pour pouvoir bénéficier d'un petit complément de revenus. Donc tel sondé va multiplier les sondages en changeant de profil à chaque fois, histoire que ça se voit pas trop, et en répondant plus ou moins au hasard. Évidemment, selon les instituts, ça reste une pratique très marginale, et ce type de répondant est systématiquement exclu du panel. Troisième biais, particulièrement sensible dans les sondages politiques, certains sondés mentent, parce qu'ils n'assument pas leur vote. On sait qu'il y a une surdéclaration du vote de gauche, et traditionnellement une sous-déclaration du vote d'extrême droite. Alors pour faire face à ces trois biais, les sondeurs procèdent à des redressements. Et c'est là que ça commence à se compliquer un petit peu et que ça commence à devenir un peu bizarre. Autrement dit, ils corrigent les résultats bruts de manière à retrouver un échantillon représentatif et surtout à compenser les sous-déclarations ou les surdéclarations. Les instituts aiment pas trop dévoiler leur méthode de redressement, mais en gros, pour procéder à ces redressements, ils interrogent les sondés non seulement sur leurs intentions de vote, mais évidemment sur leur vote passé. Et alors quand on constate un écart entre les déclarations de vote des sondés et les résultats des élections passées, on pondère les intentions de vote pour chaque candidat par le taux de sous-déclaration ou de sur-déclaration par rapport au vote passé. C'est un tout petit peu compliqué, ça fait très sérieux. En réalité, d'un point de vue strictement statistique, c'est du bricolage. Ces biais redressés de manière plus ou moins astucieuse suffisent largement à expliquer les écarts entre les sondages et les résultats électoraux. Mais le problème principal n'est pas tellement là, en fait. Il y a un autre problème qu'on voit pas du tout quand on s'intéresse uniquement à la question des biais, c'est le caractère, ce qu'on appelle performatif du sondage. Autrement dit, les électeurs ont quand même tendance à voter en fonction des sondages. D'autant plus quand ils n'ont pas d'avis vraiment très tranché. Et donc, il y a le vote stratégique, évidemment. Et puis, il y a aussi une tendance à, quand on sait que, par exemple, on a une sympathie particulière pour tel candidat venant du Béarn, je ne cite personne, dont les intentions de vote ne dépassent pas les 1%, et que, par ailleurs, on veut que son vote ait un minimum d'efficacité, on va avoir tendance à voter pour quelqu'un qui est haut dans les sondages. Et donc, du coup, les sondages induisent la manière dont on va parler des candidats, qui induisent en retour la manière dont les sondés vont répondre au sondage. Voilà. Et ce qui fait qu'en fait, on retrouve d'une certaine manière ce que je disais sur l'opinion publique d'avant les sondages, c'est-à-dire que finalement, c'est un petit peu les élites qui parlent aux élites. c'est les journalistes qui parlent aux sondeurs et les sondeurs qui parlent aux journalistes et les électeurs qui, de temps en temps, donnent leur avis. Voilà.
Mais les électeurs donneront leur avis quand même, au bout du bout.
Oui, oui, et puis ce ne sera pas forcément celui des sondés ou des sondages.
Alors dans la série « On ne parle pas de politique aujourd'hui », Gaël va nous parler, non pas de politique, mais de recherche, et très exactement de du code de conduite européen de la recherche intègre.
Eh oui, c'est pour lutter contre la fraude scientifique. Alors qu'est-ce que c'est la fraude scientifique ? Bien, pour un chercheur, il y a trois fautes graves. Le plagiat, la fabrication de résultats et la falsification de résultats. Alors c'est vieux comme la science, Ptolémée aurait plagié, paraît-il. Freud s'est inventé des patients. Et plus récemment, en 2014, un article de la chercheuse japonaise Haruko Obakata sur les cellules souches a été rétracté de la revue Nature pour fabrication de données, ce qui a entraîné la démission et même le suicide de son directeur. Et puis, il y a des fautes moins graves, mais qui relèvent aussi de la fraude scientifique. Par exemple, faire de l'autoplagiat, c'est-à-dire publier un article dans lequel on copie des gros morceaux de ses propres articles précédents, alors que chaque article d'un chercheur est censé être une nouveauté. Frauder, c'est aussi dissimuler des résultats, soit parce que ces résultats mettent en cause d'autres résultats qu'on a montrés, soit parce que ça ne plaît pas à l'entreprise qui finance la recherche. Frauder, c'est encore nier le travail des autres. Par exemple, quand on exclut de la liste des auteurs d'un article quelqu'un qui a contribué significativement au travail. Ou bien quand un article scientifique omet volontairement de citer certains travaux importants qui relèvent de son champ de recherche. Et pour faire face à ce phénomène de fraude, majeur ou mineur, qui ternit l'image de la recherche, la Fédération européenne des académies des sciences et des humanités a publié un code de conduite européen de la recherche intègre. Alors, il y avait eu une première version en 2011 et la nouvelle version est sortie à la fin du mois de mars. C'est un texte très succinct qui rappelle les principes et les bonnes pratiques de l'intégrité scientifique et qui indique comment traiter la fraude et qui donne une liste de textes de référence. Et en fait, il renvoie plus aux États et aux institutions scientifiques le soin de définir une politique précise. Et d'ailleurs, c'est en cours puisque ces dernières années, il y a une grande effervescence institutionnelle autour de ce thème de l'intégrité scientifique. Rien qu'en France, sur les deux dernières années, on a eu une charte de déontologie des métiers de la recherche en janvier 2015, un guide « Pratiquer une recherche intègre et responsable » diffusé par le CNRS et la conférence des présidents d'université en décembre 2016, et enfin, tout récemment, à la fin mars, une circulaire du ministère chargé de la recherche qui crée un office de l'intégrité scientifique et qui annonce que désormais, pour avoir des projets financés par l'Agence nationale de la recherche, les universités devront montrer qu'elles ont réellement une politique d'intégrité scientifique. Alors finalement, est-ce que tous ces codes, ces chartes, ces guides, ces référents intégrité vont réduire la fraude scientifique ? Alors dans la circulaire ministérielle, il y a une phrase qui fait réfléchir. Selon le rapport Corvol sur la fraude scientifique qui a été remis en juin au ministre, il n'y aurait pas plus de problèmes en France que dans les autres pays riches, mais un retard dans la mise en place de mesures et de mécanismes appropriés pour traiter l'intégrité scientifique et son contrôle. Dans ce cas, si on n'a pas plus de problèmes de fraude que les autres pays, en ayant moins de dispositifs de contrôle de l'intégrité scientifique, est-ce que cette inflation de chartes, de guides, de circulaires, de codes de bonne conduite serait la bonne solution ? C'est-à-dire, si on veut lutter contre la fraude scientifique, est-ce qu'il ne faut pas plutôt se demander qu'est-ce qui pousse un scientifique à frauder ? Et en général, c'est la compétition qui pousse à frauder. En particulier, des milliers de jeunes chercheurs précaires se battent pour avoir quelques postes stables et ils sont dans une course effrénée à la publication pour remplir leur CV. Les chercheurs confirmés, eux, sont dans la course au financement, qui sont rares, et donc il leur faut absolument des résultats et des publications, quitte à tordre un petit peu les résultats de leurs expériences. Et ce système ultra-compétitif qui favorise la fraude, aucune des institutions qui promeuvent les code de bonne conduite, n'est prête à le changer. La fraude scientifique a donc encore un bel avenir devant elle, tandis qu'on multipliera les chartes, les référents intégrité, les procédures qualité et toute une bureaucratie pour se donner bonne conscience. C'est un peu comme le greenwashing, cette manière de verdir les apparences sans toucher au mode de production. On fait pousser des fraises en hiver, mais on les emballe dans des barquettes recyclables parce qu'on est éco-responsable. Alors, rien à attendre de ce nouveau mouvement de bonne conscience. Finalement, c'est aux chercheurs de se saisir de ces codes de bonne conduite, à la fois pour pointer la contradiction qu'il y a entre les objectifs annoncés et le système dans lequel ils baignent, et puis pour essayer de transformer chaque élément d'une charte d'intégrité scientifique en grain de sable qui sera capable de gripper ce système qui pousse à la fraude.
On n'a plus qu'à écouter, évidemment, la mère de toutes les chansons qui parlent de la recherche. La Java des bombes atomiques, Boris Vian.
Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais vu le pays reconnaissant, les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Rebonjour, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, sur l'émission Mode d'emploi, animée aujourd'hui donc toujours par une équipe de militants intermondialistes d'attaque et du journal Le Piaf.
Et nous recevons Jean-Claude Eliva, directeur de la coordination Eau Île-de-France, qui va nous parler notamment de remunicipalisation de l'eau.
La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh, oh, oh. OH2O, oh, OH2O.
Donc Jean-Claude, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que tu pourrais présenter en deux mots la coordination Eau Île-de-France ?
Oui, bien sûr. La coordination Eau Île-de-France est une association réseau, c'est-à-dire qu'elle regroupe à la fois des associations locales, départementales, diverses et variées, puis des personnes physiques. Et en fait, elle a plusieurs objectifs. Ces objectifs sont le droit humain à l'eau, faire avancer la grande question du droit humain à l'eau et à l'assainissement, de considérer l'eau comme un bien commun de l'humanité et de la vie, la gestion publique, bien entendu, et puis une gestion beaucoup plus démocratique qui fasse une plus grande place aux usagers et plus écologique également que celle qu'on connaît aujourd'hui.
D'accord. Alors, avant de parler de remunicipalisation, est-ce qu'on pourrait faire un petit état des lieux de la gestion de l'eau aujourd'hui? C'est-à-dire, quelle est la proportion, qui gère l'eau? Quelle est la proportion de communes qui sont en gestion publique ou en gestion privée?
Alors, si on parle de notre région, de la région parisienne, là, je vais vous amener une petite carte que vos auditeurs verront pas, mais que je peux commenter. En fait, il y a une grande régie publique qui est Hauts-de-Paris, donc qui recouvre le territoire de Paris. Et puis tout autour, il y a essentiellement des délégations à deux grandes entreprises privées, aux deux principales multinationales de l'eau dans le monde, qui sont Veolia et qui sont Suez. Donc tout autour, il y a le CEDIF, le syndicat des eaux d'Île-de-France, qui regroupe environ 150 communes et donc qui lui délègue à Veolia depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis sa création, depuis 1923, ça va faire bientôt un siècle. Et puis, il y a d'autres territoires, par exemple, il y a un autre syndicat qui s'appelle le SEPG, le syndicat des eaux de la presqu'île de Gennevilliers, qui regroupe une dizaine de communes, donc plutôt à l'ouest, au nord-ouest. Et celui-là délègue à Suez depuis sans doute, peut-être pas aussi longtemps, mais pas très loin. Et il y a encore quelques territoires qui sont délégués à Suez, quelques villes qui ont délégué à Suez depuis longtemps, dans l'Essonne notamment, et dans le sud du Val-de-Marne. Donc voilà, ça c'est un peu le panorama. Vous voyez que le poids de ces entreprises privées, notamment ici en région parisienne, est très important. Il était encore plus il y a quelques années, puisque la création de la régie publique Hauts-de-Paris, ça date de 2010. Hein. Voilà, donc c'est tout à fait récent.
Et cette situation de domination du privé sur le marché de l'eau, c'est propre à la région parisienne ou c'est similaire dans le reste de la France?
Disons qu'en région parisienne, c'est peut-être le paroxysme, mais c'est la tendance générale, effectivement.
D'accord. Alors, quand on confie l'eau à une entreprise privée, que ce soit Suez ou Veolia, en quoi consiste cette délégation de services publics? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'entreprise possède? De quoi elle est responsable? Quel est le type de contrat?
En fait, en général, on confie à l'entreprise l'exploitation du service public de l'eau, c'est-à-dire à la fois la production de l'eau potable et à la fois sa distribution. De façon générale, ce n'est pas l'entreprise qui possède les installations. Bien qu'il y a quelques exceptions et qu'il y a un certain nombre d'installations de production d'eau potable qui sont possédées par les entreprises. Mais c'est la situation générale, c'est les installations appartiennent aux collectivités et leur exploitation est déléguée aux entreprises pour une durée qui maintenant a été réduite, qui ne peut pas dépasser 20 ans. Mais 20 ans, c'est déjà important. Et d'autant plus qu'une fois qu'une entreprise est installée, la tendance, c'est de renouveler. Je donnais l'exemple du CEDIF, 1923, la fin du prochain contrat, c'est 2023, un siècle qu'un syndicat des eaux, le plus grand syndicat des eaux de France, délègue à la première entreprise privée mondiale de l'eau.
Au sein de la coordination Eau-Île-de-France, vous militez en faveur d'un retour à une gestion publique de l'eau et d'une démocratisation de cette gestion. Quels seraient les avantages d'une gestion quels sont les avantages d'une gestion en régie publique?
Il y a de nombreux avantages. Le plus évident pour les usagers domestiques, c'est la question du tarif. Si je prends les exemples que nous avons sous les yeux, entre Paris et le CEDIF ou entre Paris et le SEPG, il y a une différence. Alors je ne parle que, vous savez, dans la facture d'eau, en fait, il y a une part qui revient à l'eau, il y a une part qui revient à l'assainissement, il y a des taxes. Donc là, je ne parle vraiment que de l'eau, hein, que de la part eau. Il y a une différence de 30%. Les usagers du CEDIF payent la partie de la facture qui concerne l'eau 30% plus cher que les usagers parisiens. C'est énorme pour un produit qui finalement est très formaté, qui est très industrialisé, dont les conditions de production sont quasiment les mêmes. Donc voilà, ça c'est un premier avantage pour les usagers. C'est un tarif qui est quand même beaucoup plus raisonnable en général quand c'est la gestion publique. Je vous donne cet exemple, mais c'est vraiment le cas général. Ça s'explique très bien parce que voilà, quand on est en gestion publique, on n'a pas de dividendes à verser à des actionnaires. Voilà, on n'a pas un résultat en termes de profit à obtenir. Les autres sujets sont qu'en fait, c'est des logiques différentes entre la gestion publique et la gestion privée. Par exemple, quand on est en gestion publique, eh ben sans doute, on va essayer d'agir en amont sur l'eau brute, sur l'eau qu'on va traiter pour en faire de l'eau potable, pour qu'elle soit de meilleure qualité possible. On va essayer d'agir en amont pour qu'elle ne soit pas polluée. Par exemple, l'eau de Paris, qui pour une part utilise des eaux qui viennent d'assez loin, qui viennent de 200 km à peu près, eh ben, a installé autour de ses champs de captage de l'agriculture biologique. La logique du privé, elle sera différente. Peu importe finalement la qualité de l'eau brute, elle aura toujours un traitement plus technologique, plus sophistiqué à proposer pour des eaux qui seront vraiment très dégradées, mais aussi plus coûteux. Et en fait, derrière, c'est elle développera plutôt une logique de business de la dépollution. Après, derrière, il y a aussi d'autres choix. Il y a la question de la place des usagers, effectivement. Nous, ce qu'on constate dans tous les... notamment dans toutes les régies qui se sont créées, qui sont nombreuses, qui sont créées ces dernières années, c'est qu'il y a une place des usagers beaucoup plus importante. Les usagers, par exemple, à Paris, il y a un observatoire parisien de l'eau, mais il y a aussi donc une structure de concertation avec les usagers, mais il y a aussi des usagers, des représentants des usagers, des représentants des associations qui sont membres du conseil d'administration de la régie Eau de Paris. Ça, bien entendu, c'est impossible qu'on ait des usagers au siège des multinationales. Et enfin, je crois que on peut se dire aussi tout simplement qu'avec une gestion publique, on a plus de chances d'avoir tout simplement une gestion saine, une bonne gestion. Quand je vois les résultats d'Eau de Paris d'année en année, là, depuis maintenant 6 ans, c'est une entreprise qui a pratiquement chaque année un excédent d'exploitation de 10%. Voilà, c'est quelque chose d'énorme. Et en ayant ce résultat, elle a en même temps augmenté ses investissements et elle a diminué les tarifs de l'eau pour les usagers. Donc voilà, on est complètement gagnant avec la gestion publique.
C'est assez récent finalement ce mouvement en faveur d'un passage en régie publique. Il y a eu un gros succès récemment de ce mouvement, c'est évidemment le passage, enfin la municipalisation de l'eau de Paris. Quels sont les autres grands succès de votre mouvement et quels sont aussi les, enfin, qu'est-ce qui freine les élus dans face à des propositions de remunicipalisation?
Alors, je crois qu'il y a un véritable mouvement depuis quelques années. Avant Paris, il y a eu Grenoble. Bon, mais là, c'est un peu différent. Il y avait un scandale de corruption, enfin, qui a amené une gestion publique d'une façon un peu.
Oui. L'affaire Carignan.
L'affaire Carignan, exactement. Ouais. Bon, mais ça remonte plus loin. C'est en 1995. Mais disons, depuis Paris, il y a plein d'autres villes. Il y a un véritable mouvement en France et dans le monde, en Europe et dans le monde entier. En France, en quelques années, c'est 300 villes moyennes et grandes villes qui sont repassées à la gestion publique. Donc, c'est des agglomérations comme Nice, comme Vierzon, c'est Montpellier. Enfin, voilà, c'est vraiment, il y a un mouvement considérable dans ce sens. Et donc, et en région parisienne, où effectivement les choses sont quand même un peu bloquées avec ces gros mastodontes, ces grands syndicats comme le CEDIF et le SEPG, malgré tout, là aussi, il y a des avancées. Par exemple, il y a une agglomération en Essonne qui s'appelle Le Val d'Orge, qui au départ pensait simplement renouveler son contrat avec Veolia, mais qui malgré tout, sous la pression d'associations d'usagers, a décidé quand même de consulter les habitants. Et donc ils ont consulté les habitants au moyen d'une carte T, et donc en leur proposant les deux options, régie ou reconduction de la délégation de services publics. Et les usagers, à leur grande surprise, les usagers des 10 villes ont répondu à plus de 70% en faveur de la régie, et quelle que soit la couleur politique des villes. Et donc, du coup, l'aglo a pris ça en compte. Ils ont voté à l'unanimité le retour en régie. Et donc, voilà, c'est une nouvelle régie qui est en train de se mettre en place dans notre région. Voilà. Et donc, pour dire que c'est vraiment un mouvement profond qui est en train de se dérouler.
Et pour ceux qui refusent pour ceux qui refusent de passer en régie publique, quels sont les arguments des élus?
Je crois que bon, les arguments, il y a souvent des arguments qui sont, je dirais, de non-sens, quoi. Donc on nous explique que ça risquerait d'être plus cher en régie, alors que chaque fois qu'il y a un passage en régie, les tarifs baissent pour les usagers. On nous explique que ça va créer, ça va faire des fonctionnaires en plus, alors que c'est vraiment hors sujet, parce qu'en fait, le budget de l'eau, comme celui de l'assainissement, c'est des budgets à part. Et finalement, le personnel qui est dévolu à ces budgets est financé par la facture et pas par le budget général des collectivités. Enfin voilà, il y a plein de fausses idées qui sont avancées comme ça. Sur le fond, je pense que leurs raisons, ce sont de notre ordre. Les raisons, c'est d'abord que la logique de la délégation de services publics, c'est de se débarrasser de ce travail-là. Et en fait, les élus qui n'ont pas envie de s'occuper de la gestion de l'eau, effectivement, ou de la gestion de l'assainissement, ils préfèrent la délégation de services publics pour se consacrer à des choses plus importantes, comme leur réélection, par exemple. Voilà, donc c'est... Ou alors, après, il y a peut-être aussi, il faut regarder des choses qui ont à voir aussi avec le financement des partis politiques. Et voilà, il y a peut-être aussi d'autres choses comme ça, moins avouables derrière ces choix-là.
Alors, avant de parler du gros combat qui s'annonce pour 2017 dans le passage à la gestion publique de l'eau, on va faire une petite pause musicale, et c'est...
Une petite pause au fil de l'eau avec Lambéloc. Comment te traduire ?
Comment te traduire ?
L'alcool, non, mais l'eau ferrigénéreuse, oui.
Alors, à propos d'eau, Jean-Claude Oliva, 2017 est une année charnière importante, puisque la compétence eau des communes va passer aux intercommunalités. Alors, est-ce qu'il y a une carte à jouer, là, pour retirer la gestion de l'eau du privé, pour la rendre publique?
Tout à fait. Alors voilà, très, très exactement, c'est depuis le 1er janvier 2016 que la compétence eau qui appartenait autrefois aux communes ou à certains endroits déjà à des agglomérations, est passé au territoire de la métropole parisienne. Et donc, c'est chaque territoire, donc les grands territoires, Paris est un territoire, par exemple, Est Ensemble en Seine-Saint-Denis est un autre territoire. Voilà, il y a 12 grands territoires comme ça qui divisent la métropole, le Grand Paris. Et donc, c'est eux qui ont la compétence eau et ils ont jusqu'au 31 décembre 2017 de cette année pour déterminer comment ils vont l'exercer. Alors, ceux, par exemple, qui étaient déjà au CEDIF ou en partie au CEDIF, ils y sont encore en 2017, mais d'une façon provisoire, par ce qu'on appelle représentation-substitution. Si d'ici la fin de l'année 2017, ils n'y adhèrent pas, ils n'y sont plus. Et donc, effectivement, c'est une chance assez unique, parce que la difficulté, quand on est dans un syndicat comme le CEDIF, c'est d'en sortir. Parce que pour sortir du CEDIF, si une commune aujourd'hui voulait choisir la gestion publique, ne voulait plus déléguer l'eau à Veolia, et vous donc, il faudrait qu'elle sorte du CEDIF. Et pour sortir du CEDIF, il faudrait que 2/3 des membres du CEDIF soient d'accord. Et ça, c'est mission impossible. Alors que là, il y a vraiment une chance d'en sortir. Et donc, il s'agit pour un certain nombre de territoires. Il s'agit donc pour un certain nombre de territoires de choisir de profiter de cette occasion pour avancer vers la gestion publique.
C'est-à-dire qu'il suffit que une intercommunalité simplement ne fasse pas la démarche d'adhérer pour que la commune sorte automatiquement.
Il y a un deuxième point très important, c'est qu'en fait dans un même territoire il peut y avoir plusieurs modes de gestion et donc et effectivement, on sait qu'il y a des villes qui ont envie, dans un même territoire, qui ont envie vraiment d'aller vers la gestion publique, et puis d'autres qui n'en ont pas du tout envie. On en a fait l'expérience ces dernières années. Et donc, le territoire, il peut dire, eh ben, j'adhère au CEDIF pour telle et telle ville, et je mets en place le service public pour les autres villes qui ont le souhait d'aller vers la gestion publique. Alors, ça veut dire pour nous une bataille un peu à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'on ait la bataille au niveau du territoire pour que celui-ci permette aux villes qui veulent aller vers la gestion publique de le faire, qu'elles puissent le faire. Et il faut qu'on ait la bataille dans les villes pour qu'effectivement il y ait des villes qui décident d'aller dans ce sens. Alors cette bataille aujourd'hui, elle est très intense, notamment dans le territoire 12, qui est grosso modo l'essentiel du Val-de-Marne et le Nord-Essonne, où il y a des grandes villes comme Ivry, comme Orly, comme Arcueil, Gentilly, le Kremlin-Bicêtre, qui sont en train d'étudier très sérieusement cette option, et donc qui font aussi, qui ont engagé des études de faisabilité technique, économique, sur cette option.
Mais alors pour Veolia et Suez, tout ça, ça risque de représenter un gros manque à gagner. Ils vont se laisser faire comme ça ?
Ah ben bien sûr, ils se laissent pas faire. Non seulement Veolia et Suez, mais je dirais leurs amis se mobilisent. Le CEDIF est extrêmement mobilisé. Donc on voit une certaine fébrilité. Donc le CEDIF envoie des dossiers, je dirais, prêts à signer aux élus pour que ils adhèrent, pour que les territoires adhèrent le plus vite possible, sans discussion. Pratiquement au CEDIF, mais ça ne se passe pas comme ça. Monsieur Santini inaugure et réinaugure à tour de bras des installations, des canalisations, voilà, pour montrer le grand avenir, la grande taille, enfin voilà, tout ce qui se passe qui peut se faire au niveau du CEDIF. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi simple que ça parce que non seulement il y a les gestions publiques, mais il y a la concurrence entre les deux groupes, Veolia et Suez, qui complique la tâche. Et il y a un certain nombre de territoires où il y a à la fois Veolia et Suez, et chacun essayant de bousculer l'autre à cette occasion et de prendre le dessus.
Et alors, vous, face à ce lobbying très actif de Veolia et Suez, comment vous préparez le terrain? Comment vous agissez auprès des élus pour leur faire choisir la bonne option?
En fait, nous, notre action, elle est d'informer les élus, de discuter avec eux, de les rencontrer. Éventuellement, par exemple, la semaine dernière, la ville de Bagnolet, qui appartient à Est Ensemble, en Seine-Saint-Denis, donc le territoire Est Ensemble, après discussion, Il y a eu un vœu de la majorité et d'une partie de l'opposition, justement, pour décider, pour dire que la ville de Bagnonet souhaitait une gestion publique, qu'elle souhaitait sortir du CDIF et qu'elle demandait au territoire de lui permettre ça. Voilà, donc ça c'est une action, mais donc ça c'est une action plutôt, je dirais, de discussion avec les élus. Il y a d'autres actions plus sur le terrain, par exemple dans le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre que j'évoquais tout à l'heure. Nous avons eu une série de rencontres avec la population sur les marchés pour appeler les gens à s'emparer du sujet et à faire pression sur les élus pour qu'ils prennent les bonnes décisions.
Et est-ce que ces grandes entreprises de l'eau ne jouent pas aussi sur le fait qu'elles ont l'expertise en matière d'eau et les élus municipaux ou leurs services techniques n'ont pas forcément cette expertise? Et donc, comment ils vont faire pour monter de toutes pièces une régie publique de l'eau?
Bien sûr, mais alors là encore, on peut revenir à l'exemple parisien. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on passe à une régie, il y a une obligation de toute façon de reprendre le personnel qui était en délégation sur ce territoire. Donc, une très grande partie de la compétence technique humaine est récupérée de toute façon. Et puis, il faut noter qu'à un certain nombre d'endroits, je prends par exemple l'exemple d'Est Ensemble, il y a déjà un service important de l'assainissement, parce que l'assainissement qui était communal est passé déjà à l'agglomération et il est géré de façon publique. Donc là, il y a déjà plusieurs dizaines d'agents qui ont une connaissance des réseaux et qui demain pourraient se transformer de direction de l'assainissement en direction de l'eau et de l'assainissement et prendre aussi en charge le service public de l'eau sur une ou plusieurs communes qui le souhaiteraient.
Alors, pour préparer cette bataille et puis d'autres autour de l'eau, je pense par exemple à la bataille sur contre les coupures d'eau pour les impayés. J'imagine qu'il faut des forces militantes. Comment quelqu'un peut participer aux actions de la coordination Eau-Île-de-France?
C'est très facile. Le plus simple, c'est de regarder notre site internet. Et donc, à partir de là, vous avez plein de rendez-vous. On a un agenda, on a plein d'actions en ce moment sur Paris, on a plein d'actions dans le territoire 12. Donc c'est très facile. On a aussi d'autres formes d'actions qui sont, je dirais, moins militantes, mais qui sont du domaine plus culturel, des projections de films, des conférences, débats. Voilà, il y a plein de façons de s'intéresser à l'eau. Vous parliez des coupures d'eau. C'est aussi une bataille très importante que nous menons maintenant depuis plusieurs années avec la Fondation France Liberté. La loi en France interdit les coupures d'eau toute l'année dans les résidences principales sans condition de ressources. C'est une avancée importante que nous essayons de faire appliquer, que certaines entreprises n'appliquent pas. Donc Veolia notamment n'applique pas cette loi. Donc Veolia continue à couper l'eau. Et donc nous sommes allés plusieurs fois. Nous avons jusqu'à présent, nous sommes allés 15 fois au tribunal. Alors je dirais du tribunal d'instance jusqu'au Conseil constitutionnel. Chaque fois les tribunaux nous ont donné raison. Là aussi, ça pose la question, on revient un peu à la question de départ du service public finalement. On voit qu'une entreprise comme Veolia, elle est incapable de respecter, au fond, ce qui est l'essence du service public, c'est-à-dire le droit pour tous, la loi. Elle se met délibérément hors la loi. Et dans la dernière phase, ce qui est plus fort, c'est qu'il nous attaque, nous, c'est-à-dire il m'attaque en diffamation, moi personnellement, et Emmanuel Poilane, qui est le directeur de la Fondation France Liberté, justement, tout simplement parce qu'on les dénonce, on dénonce le fait qu'ils sont dans l'illégalité en continuant à couper l'eau. Et donc, on a besoin aussi en ce moment particulièrement de monde, de soutien des citoyens, des associations, des collectivités, pour équilibrer les forces entre la première multinationale de l'eau dans le monde et nous. C'est pour ça qu'on a lancé une campagne qui s'appelle « On ne se taira pas ». Vous faites hashtag « On ne se taira pas » et vous tombez sur cette campagne. Donc, une campagne aussi de financement participatif pour nous aider à faire face notamment aux frais de justice qu'occasionne cette plainte en diffamation. C'est ce qu'on appelle une poursuite bâillon, voilà, pour essayer de nous bâillonner et nous empêcher d'agir, mais on ne se taira pas.
Merci Jean-Claude, et donc nous appelons les auditeurs à participer à cette campagne « On ne se taira pas ».
Alors nous allons écouter une chanson de Renaud.
Oh non, non.
Oui, non, mais je sais, Renaud est plus ou moins mort. Enfin bref, ou s'il n'est pas mort, il bouge juste assez pour dire des conneries, genre moi je vote à droite, je vote Sarko.
J'aime les flics.
Ouais, ou je vote Macron, enfin des trucs de droite, quoi.
J'embrasse les flics.
J'aime Sardou.
Peut-être pas quand même, si. Et en plus, nous n'allons même pas écouter une chanson de gauche de Renaud. Non. Alors, pourquoi écouter ?
Mais on est sur FPP.
Mais alors, pourquoi écouter du Renaud aujourd'hui, 14 avril 2017 ?
Mais oui, pourquoi ?
Ouais.
Eh bien, parce qu'on est justement le 14 avril 2017, c'est-à-dire 40 ans après...
Bonjour, bienvenue sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et c'est toujours l'émission Mode d'emploi, toujours animée par les militants d'Attaque et le journal Le Piaf.
Et on attaque l'agenda du mois d'avril.
Alors, par la manifestation contre le meeting du Front National qui a lieu dimanche 16 avril à 14h devant le métro 4 chemins à Aubervilliers. Voilà.
Et juste après, à 15h, toujours le dimanche 16 avril, un rassemblement Stop Corruption, Place de la République. Allez-y, avec vos casseroles, contre les conflits d'intérêts, la corruption, les abus de biens sociaux et toutes les malversations des élus.
À partir de dimanche, ce sera la semaine de solidarité avec les prisonniers politiques. Et ça sera entre autres la soirée de lancement dimanche soir à 17h au Centre International de Culture Populaire, le CICP, au 28 rue Voltaire à Paris, avec des débats et des concerts qui sont entre autres organisés par FPP.
Et donc le 18 avril à 19h30 à la Maison des Métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud, c'est le Ciné-Croc d'Attaque Paris 11e et qui présente un documentaire réalisé par Marie Piala. Ça ira mieux demain peut-être. Voilà, 5 militants illustrent le propos en apportant leur témoignage sur notre société de plus en plus ultralibérale.
Mercredi 19 avril, un séminaire Travail et démocratie à 18h30 au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, salle Maurice Allais, 25 rue de la Montagne Sainte-Geneviève, avec des thèmes comme démocratiser l'entreprise, remettre le travail au cœur de la démocratie, sur quelle base et pourquoi faire.
Permanence en solidarité avec les réfugiés. Depuis plusieurs mois déjà, des milliers de migrants tentent de survivre à Paris, chassés d'un campement de fortune à l'autre et pour les plus chanceux, des places temporaires dans les centres d'hébergement. Tous les mercredis, et ça sera donc le cas mercredi 19 avril à 17h, aux trois passages de l'Atlas, il est organisé une permanence où migrants et habitants du quartier peuvent se retrouver autour d'un café pour créer du lien, amener aussi, pourquoi pas, des tickets de métro, des puces pour portable, des recharges de téléphone, des sous-vêtements, des gels douches, du shampoing, etc., etc. C'est tous les mercredis entre 17h et 20h.
Et jeudi 20 avril à 19h, c'est la projection des amoureux au banc public à la bibliothèque André Chédid de 36 rue Emériot. Et donc c'est un documentaire sur 13 couples franco-étrangers.
Et jeudi 20 avril à 18h30 à l'université de Nanterre, il y a un vernissage d'une exposition qui s'appelle « L'eau ne tombe plus ». Et en fait, c'est des photos prises par des jeunes chercheurs qui sont consacrées aux techniques et aux sociétés, comment les techniques et les sociétés s'organisent autour de l'eau. Et donc, on doit ça au réseau Paris 10.
Jeudi 20 avril du Théâtre Citoyen, ça s'appelle « Croissance revient ». C'est par l'église de la Très Sainte Consommation et la compagnie Triple A. C'est à 19h au Théâtre de Gouvernail, 5 passages de Thionville.
Le jeudi 10 avril 2017, à la Maison des associations du 3e arrondissement de Paris, le comité Attaque Paris Centre propose une réunion débat sur les services publics et la santé, le service public du 21e siècle.
Voilà, et alors toujours jeudi 20 avril, donc vous avez vraiment l'embarras du choix, c'est les jeudis d'Acrimed à propos des usages médiatiques des sondages, voilà, avec Alain Garrigou que je recommande, le connaissant personnellement. Voilà.
On s'en fout, Alex.
C'est lui qui m'a tout appris sur les sondages. Oh.
Le jeudi 20 avril aussi, mais à 19h aussi, un débat sur la transition politique en Colombie entre trahison et réconciliation, c'est à 19h au bar-restaurant Le Lieu-Dit.
Un cercle de silence contre le traitement inhumain des sans-papiers, il y en a partout dans Paris. Pourquoi pas celui du vendredi 21 avril à 18h30, place du Palais-Royal.
Et Salon du Livre Libertaire 2017, c'est le samedi 22 avril de 11h à 20h et dimanche 23 avril de 11h à 16h. C'est à l'espace des Blancs-Manteaux, 48 rue Vieille du Temple.
Entre le dernier tour de la primaire et le premier tour de l'élection, il y a le premier tour social. C'est une manifestation premier tour social, samedi 22 avril à 14h, place de la République. Et puis, voilà, vous venez.
Alors, bah, l'émission se termine. Alors, nous remercions notre invité, Jean-Claude, de l'association du collectif Île-de-France pour l'eau. Il y avait évidemment Alex et Gaël aux chroniques, Claude à la technique et Jean-Marc n'était pas là, mais Jean-Marc nous a fait passer une petite chronique que je vais lire sans sa voix merveilleuse. Ça s'intitule « Me cassez pas les urnes ». Nous sommes toujours impartiales et on ne donnera pas de consigne de vote pour la présidentielle, d'autant que notre poids dans la sphère médiatique pourrait faire basculer cette élection. La rédaction de cette émission et du journal Le Piaf, qui existe parfois encore, se contentera d'un commentaire suite à l'avalanche concordante des sondages du jour. Car nous sommes arrivés à une certitude sondagière, il n'y a plus que 4 candidats qui ont la possibilité de se retrouver au deuxième tour, toutes les combinaisons étant envisageables. En bref, les 4, Macron, Fillon, Le Pen et Mélenchon, peuvent être au deuxième tour. Sachant que dans l'hypothèse où Le Pen sera au deuxième tour, les 3 l'abattraient largement. Et les sondages, comme on l'a expliqué, on y croit. En résumé, il y a 3 candidats de droite et 1 de gauche. Option 1, vous êtes de droite. C'est plus difficile de choisir, vu que vous avez le choix entre 3 amis des banquiers des riches et des grandes entreprises, 2 candidats mis en examen, 2 réacs, 1 facho un peu quasi assumé et un autre facho un peu honteux. Donc si vous êtes de droite et honnête, finalement vous n'avez pas le choix, vous devez soit vous abstenir ou voter Macron et prendre du Prozac. Il y a quand même l'option 2. Si vous êtes de gauche, le choix est simple, votez Mélenchon. Et pour terminer, nous écoutons, bah, pourquoi pas, le chant des partisans.
En toute neutralité.
Ces cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, les partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.